En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet et avec toute l'équipe qui m'aide chaque jour à présenter les dossiers que nous ouvrons pour les auditeurs d'RTL. Et aujourd'hui, à la une de l'émission, un événement qui a particulièrement choqué la ville de Toulon, mais qui a fait la une de l'actualité nationale. C'était le 15 février 1989, il était 14h26 très précisément, lorsqu'un immeuble ancien situé dans le centre-ville de Toulon s'effondre en quelques secondes à la suite d'une explosion particulièrement violente. Sur place, c'est l'apocalypse, il fait nuit en plein jour, des passants courent dans tous les sens, c'est la panique, la désolation, un épais nuage de poussière se répand dans le cœur de la ville, et puis quand il se dissipe, il ne reste du bâtiment de 5 étages qu'une montagne de débris dont on va retirer 13 morts et une quarantaine de blessés. Nous passerons en revue les différentes hypothèses qui ont été avancées sur l'origine de ce drame, mais on peut dire tout de suite que en 2013, il reste encore énormément de zones d'ombre et que continue à s'opposer une version officielle, celle du suicide d'une habitante de cet immeuble qui aurait décidé de mourir par une explosion de gaz, et l'autre qui n'est pas la version officielle, mais nous vous donnerons tous les arguments de ceux qui la défendent, le tir par erreur d'un missile venu d'un bateau de guerre en manœuvre à ce moment-là dans la rade de Toulon avec des bateaux français et des bateaux américains. Bonjour François Serrier.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, on va pas mentir à ceux qui nous écoutent, on se connaît bien. Dans les années 90, exactement d'ailleurs en 95, 6 ans après cet accident horrible, on travaillait ensemble et vous avez mené une enquête donc sur place à Toulon. On va entendre dans un instant, on va se rappeler comment on a vécu ça, ce jour-là, sur l'antenne d'RTL. Mais 6 ans après, ceux que vous avez rencontrés, ils étaient toujours choqués?
On peut dire que la mémoire collective était encore très très vive dans les rues qui se situaient à côté de la Maison des Têtes. Les gens s'en souvenaient comme si c'était hier, et je peux même vous dire que leur avis et leur thèse à eux étaient vraiment tout établies.
Alors, cette Maison des Têtes, on l'appelle pour ça parce qu'elle a une particularité, hein, cet immeuble.
Cet immeuble donc, qui n'existe plus, évidemment, était orné de têtes en stuc au-dessus des portes.
Alors, nous allons revenir ensemble sur votre enquête de l'époque. Nous allons passer en revue ensemble les différentes hypothèses, voir quels sont les arguments des uns et des autres, écouter des documents, des archives de la rédaction d'RTL, et puis nous aurons, mais je voudrais le saluer tout de suite, nous aurons tout au long de cette émission le témoignage d'un des rares survivants très grièvement blessé dans cette affaire, Vulfran Dermant. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pradel.
Et vous continuez à vous battre autant d'années après pour que la solution à ce drame qui reste encore une énigme soit vraiment trouvée, je crois.
Tout à fait. Je souhaite d'abord bien vous saluer puisque je vous avais déjà donc rencontré lors de votre émission Témoin numéro 1 en avril 95. Et je salue aussi donc le journaliste qui est à vos côtés et que je connais aussi. En effet, nous continuons à nous battre, à faire tout le nécessaire pour la recherche de la vérité.
Vous considérez que vous êtes deux fois victime dans cette affaire?
Oui, tout à fait. Nous trouvons absolument impossible que l'affaire n'aboutisse pas. C'est tellement énorme et tout le monde sait vraiment ce qui s'est passé, mais on n'aboutit pas et c'est vraiment incroyable. Ça paraît impossible.
Voilà, première victime donc évidemment de cette explosion. Vous êtes resté dans le coma pendant de très nombreuses semaines. En tout cas, on a annoncé 3 fois votre décès à votre famille. Et puis victime, vous considérez aussi victime d'une justice qui porte encore peut-être des œillères. Mais ça, nous verrons cela plus tard. On en parlera également, d'ailleurs, de ce dossier avec Maître Isidore Aragonès, qui est avocat au barreau de Marseille, avocat de l'Association des familles des victimes qui existe encore. Mais tout de suite, nous allons nous transporter dans cette journée du 15 février 1989. C'était sur RTL. L'explosion, je vous l'ai dit, avait eu lieu à 14h26. Il est maintenant 16h. Flash spécial, bien sûr, sur l'antenne d'RTL. Et Jean-Baptiste Dumas est sur place.
Ne faites aucun doute qu'il y a bien eu une violente explosion puisque toutes les vitres des immeubles avoisinants ont été complètement soufflées. Alors eh bien, il s'agit, vous l'avez dit, des immeubles assez vieux, des immeubles classés monuments historiques. À l'intérieur, habituellement, il y a une trentaine de personnes qui habitent puisqu'il y a plusieurs appartements, il y a un cabinet d'huissier et un laboratoire de prothèses dentaires. Au moment de l'explosion, vers 14h30, il pourrait y avoir eu une vingtaine de personnes à l'intérieur. Actuellement, selon les pompiers, 5 ou 6 personnes se trouveraient toujours sous les décombres, armées de pelles et de baramines. Les pompiers essayent de déblayer les blocs de pierre. Ils s'efforcent en ce moment même de dégager une jeune femme qui ne cesse d'appeler au secours. Les chiens viennent d'arriver et flairent tout autour des décombres pour essayer d'accélérer la tâche des sauveteurs. Une grue essaie d'enlever le plus rapidement possible le plus gros des éboulis. Pour l'instant, le bilan est de 6 blessés graves et de nombreux blessés légers atteints par des éclats de verre lors de l'explosion.
Il s'agit bien sûr, dans ce chiffre que vient d'énoncer Jean-Baptiste Dumas, d'un bilan malheureusement très provisoire, puisque très vite il faudra se rendre à l'évidence. Il y a eu dans ce drame 13 morts et plus de 40 blessés. Quelques instants plus tard, toujours sur l'antenne d'RTL, Jean-Baptiste Dumas diffusait un montage, ce que nous appelons un montage, c'est-à-dire une mise bout à bout de plusieurs témoignages recueillis au fil des passants et des personnes paniquées qu'il avait rencontrées dans les rues de la ville. Elles racontent comment elles ont vécu cette explosion.
Je pense qu'il s'est passé une explosion de gaz. J'étais à 40 mètres dans la rue Henri Seillon. J'ai venu voir mon ami le pharmacien et il y a une déflagration. Je me suis plaqué contre le mur, je suis tombé des verres de partout. Voilà. Moi, je pense que c'est le gaz. Ça fait une bombe de 200 kilos qui fait ça, c'est pas possible.
J'ai annoncé à la mairie 3 fois que l'immeuble bougeait, qu'il y avait des craquelures. Et chaque fois, on me disait, mais non, c'est parce que c'est vieux l'immeuble. Mais ça ne vient pas des travaux qu'on a fait. Et une après-midi, on n'a même pas travaillé parce qu'on avait peur, c'est tout. Voilà, et voilà, on en est. Hein.
Un grand boom, beaucoup de poussière, de fumée. Le silence, hein, pas de bruit. Les gens sont partis très très vite des lieux, mais très vite, les secours étaient là. Tout le monde est intervenu. Moi, j'étais un des premiers sur place, mais il a fallu attendre 3-4 minutes pour pouvoir y voir quelque chose. Hein. Ça a été soufflé aux alentours, mais c'était le grand calme. Je crois que dans ces moments-là, c'est la panique. Moi, je peux dire que j'ai été surpris. C'était un silence total. Pas de cri, rien du tout.
Et oui, une explosion terrible, un silence total, pas d'incendie, détail important sur lequel nous allons revenir. Ce sont les marins-pompiers de Toulon, dirigés par le lieutenant-colonel Favre, qui mènent les opérations, et les sauveteurs rencontrent des difficultés extraordinaires à pouvoir explorer les décombres. Nous revenons sur tout cela avec mes invités dans un instant. 15 février 1989, 14h26, l'explosion de cet immeuble de 5 étages en plein centre-ville de Toulon, un drame, 13 morts, 40 blessés, et c'est un minimum. Et sur RTL, on entendait l'un des rares survivants qui se trouvait à l'intérieur de cet immeuble, et on peut parler de miraculé en ce qui le concerne. Il s'appelait Henri Aldecker. Il est à l'époque le jeune collaborateur d'un huissier qui a lui-même été tué dans l'effondrement de l'immeuble. Et vous allez l'entendre, il raconte au journaliste d'RTL Éric Esnay, il raconte comment il a eu le réflexe de se réfugier sous un bureau, et il est resté enseveli près de 3 heures dans les décombres.
Tout m'est tombé dessus et le bureau a, je suppose, servi à empêcher d'être écrasé. Bon, le bureau s'est affaissé, m'a compressé les jambes, il s'est incurvé. À partir de là, eh ben, j'étais vivant, j'avais mal, j'avais très mal. On souffre beaucoup. Surtout au niveau de la compression, je ne sentais plus mes jambes. Puis après, il y a la lumière qui est arrivée, l'air, un peu d'air frais, un peu d'eau, que les pompiers m'ont passé. La main du pompier.
Et quoi on pense quand on est là-dessous ?
On pense à la mort, d'abord. On regrette dans un premier temps d'être en vie parce qu'on pense qu'on va mourir. Et on aurait préféré mourir sous le coup.
Ah, évidemment, une très très grande émotion et vu le Frandermann qui est en ligne et qui lui est aussi un miraculé, le mot est faible. Vous avez dû revivre à travers ce récit ce qui s'est passé pour vous, quoique vous avez perdu conscience assez vite, je crois, vu le Frandermann.
Alors, je voudrais juste reprendre une chose. Vous avez dit que cette personne avait eu un réflexe de s'abriter sous le bureau. Mmh. Il n'a pas eu le réflexe, c'est impossible. Ah. Ça a été tellement brutal et violent que le bureau lui est certainement tombé dessus ou l'a glissé dessous. Mais je peux vous dire que pour moi, c'est comme si d'un coup, on éteignait la lumière.
Alors justement, vous allez nous raconter, prenez le temps de nous raconter, parce que à l'époque, vous travaillez pour un cabinet de prothésistes dont le cabinet se trouve donc dans cet immeuble. Et au moment des faits, et je ne parle pas volontairement de l'explosion parce qu'il y a eu quelque chose avant, vous êtes là depuis 5 minutes.
Tout à fait. Moi, je venais d'arriver. C'était au premier étage. Hein. Donc, je suis rentré dans l'immeuble normalement. J'ai monté l'escalier. Je suis au premier étage. Je suis rentré dans les locaux. J'ai posé mes affaires dans le vestiaire. J'ai fait un petit tour. Moi, j'étais apprenti. Hein. Ça faisait peu de temps que j'étais dans ce laboratoire. Mm-hmm. Entré dans ce laboratoire. C'était puis au mois de septembre. Et donc, j'ai fait un peu le tour. C'est-à-dire que je regardais un peu ce que faisaient mes amis qui étaient déjà présents. C'est-à-dire Jean-François Torrisano, Alexandra Baye et Jean-Marie Radicich. Je suis ensuite allé dans la pièce du fond, qu'on appelle la pièce à plâtre, pour voir s'il n'y avait pas des empreintes que je devais couler, puisque c'était une de mes tâches. Mmh. Je suis revenu, je me suis ensuite assis à mon poste, à la cheville, comme on dit. J'ai allumé mon bec benzène pour confectionner ce que l'on appelle une cire d'occlusion.
Mmh. Et vous n'avez senti aucune odeur particulière à ce moment-là
hein? Ah, absolument pas. Aucune odeur. Et si vous me dites ça, si vous voulez faire allusion au gaz...
Bah, oui, on va en parler tout à l'heure, bien sûr.
Tout à fait. S'il y avait eu du gaz, je pense que la quantité qu'il faut pour faire sauter un immeuble de cette taille aurait été telle que la moindre étincelle aurait fait sauter déjà l'immeuble. Il faut savoir que dans le laboratoire, il y avait quand même des fours allumés qui étaient à plus de 800-900 degrés. Mmh. Et lorsque j'ai moi-même allumé mon bec benzène, même si celui d'Alexandra était aussi allumé... rien qu'en allumant le bec benzène avec un briquet ou une allumette,
bien sûr.
L'explosion aurait dû avoir lieu.
Alors c'est Alexandra, vous avez venez de parler d'elle deux fois, très important, c'est elle qui va, entendre quelque chose, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ça faisait donc 5 minutes que j'étais assis hein, à mon poste, à confectionner donc cette cire d'occlusion, et d'un coup, Alexandra s'est levée, brutalement, hein, je peux, puisque sa chaise est même partie légèrement en arrière. Je ne peux pas dire qu'elle a vu ou entendu quelque chose, puisque je ne suis pas à sa place. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elle s'est levée brutalement en criant le mot, excusez-moi, hein, je suis obligé de le dire, hein, le mot merde. Mm-hmm. Mais la manière dont elle l'a dit, la manière dont ça s'est passé, ça a déclenché chez moi une réaction, une peur viscérale, une réaction que je peux pas expliquer, qui fait que je me suis moi-même levé très très rapidement, brutalement, en me protégeant la tête, en essayant de me diriger vers la sortie.
Alors, j'interromps votre témoignage juste parce que François Serrier, que vous connaissez, qui avait mené l'enquête à l'époque, en 1995, je l'ai vu réagir, vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, bonjour Villefranc.
Bonjour.
Simplement, je crois me souvenir que Alexandra Baye, si elle se lève et qu'elle prononce ce fameux merde, c'était pour une raison que tu m'avais expliquée à l'époque, elle travaillait devant la fenêtre.
Oui, elle avait une fenêtre.
Donc, elle peut voir quelque chose.
Voilà, c'est ce que j'allais le dire, hein, vous faites bien de le signaler. Oui. En effet, Alexandra était pratiquement face à une fenêtre. et elle, on peut dire qu'elle a peut-être vu quelque chose par la fenêtre.
Mais ce qui reste, c'est que vous, en voyant son comportement et en entendant son merde, finalement, alors là, pour le coup, vous avez un réflexe, c'est de vous protéger, qui vous a peut-être sauvé la vie, d'ailleurs, j'en sais rien, parce que l'explosion est venue tout de suite après ?
Instantanément. Alors, ça a été quelque chose d'assez... on peut pas le décrire. C'est parce que en fait, il n'y a eu aucun bruit. Mm-hmm. Il n'y a pas eu de boom ni quoi que ce soit lorsqu'on jette un pétard ou qu'on tire un coup de fusil. Hein.
Ah bon?
Il y a eu un flash violent, ouais. Un souffle extrêmement puissant qui m'a projeté comme si j'étais rien du tout, hein, ouais, fait ouais. Du paille. Et là, tout s'est effondré. J'ai été assommé. Et je me suis réveillé combien de temps après. Je ne peux pas le dire. Mais lorsque je me suis réveillé, j'entendais encore la poussière retomber sur les décombres. Ouais. Mais le moment entre le moment où Alexandra s'est levée brusquement et a déclenché chez moi cette réaction, l'explosion n'a été de je peux même pas parler d'une seconde.
Et vous avez perdu conscience ?
Oui, je pense que j'ai perdu conscience. C'est très très difficile à déterminer, mais je pense que j'ai perdu conscience parce que je me suis retrouvé, mais ça je ne l'ai su qu'après grâce aux pompiers, hein, dans une poche de survie de 30 cm de haut sur 70 de large. Vous voyez ce que ça fait. Hein,
dans lequel vous êtes resté pendant près de 10 heures.
Hein, voilà, plié là-dedans pendant presque 10 heures. Mmh. La seule chose que je me souviens, moi, quand je suis revenu à moi, c'est qu'il m'a fallu un certain temps pour le réaliser, ne serait-ce que ce qui a pu se passer. Je ne l'ai pas réalisé. C'était
bien
impossible.
Sûr,
et heureusement, parce que je n'ai pas réalisé ce qui s'était passé, je n'ai pas réalisé ma situation. J'avais mon pied, le dessous de mon pied gauche sur le front. Mmh. Mon menton et mon nez se sont rentrés entre mes cuisses. J'étais plié au niveau du sternum. J'étais obligé pour respirer. Je haletais comme quelqu'un qui vient de parcourir un 100 mètres et ça pendant une dizaine d'heures, c'est épuisant. Je n'ai pas du tout compris la situation.
Bien sûr.
Absolument pas.
Alors, Wulfranc, on va faire une pause dans l'émission. On va vous retrouver ensuite. On va retrouver François Serrier parce que lors de son reportage, évidemment, il a essayé lui aussi de reconstituer les témoignages des uns et des autres du côté des blessés, des survivants, des passants, des pompiers également, des sauveteurs. Et on va voir avec lui quelle a été la première hypothèse qui est sortie, celle de l'explosion de gaz. Mais pour qui, pourquoi, pour quelle raison? On va essayer de vous expliquer ça dans un instant. L'heure du crime consacrée à ce drame de 1989, l'explosion de la maison des Têtes à Toulon, avec ses 13 morts, ses 40 blessés, et des dizaines d'autres, bien sûr, choqués à vie. C'est ce que vous avez pu constater, François Serrier, donc en allant là-bas 6 ans après. Alors, d'un mot, le résultat de votre enquête, parce que quand on arrive comme ça, des années après, on essaie de rencontrer tout le monde. Qu'est-ce que vous comprenez de ce drame à ce moment-là ?
D'abord que la mémoire de ce drame, 6 ans après les faits, que ce soit dans les rues proches de la Maison des Têtes ou plus largement à Toulon, cette mémoire était encore très vive. Particulièrement, évidemment, dans les alentours immédiats de la Maison des Têtes. On va dire qu'à l'époque, encore dans les années 95, deux thèses principales s'affrontaient. La première, la thèse officielle, qui est apparue très rapidement, j'allais presque dire, entre de gros guillemets, trop rapidement, l'explosion au gaz. Et la deuxième, techniquement peut-être plus compliquée, mais extrêmement intéressante quand on connaît la situation de Toulon, notamment la présence, la proximité à la fois du port militaire et de l'île du Levant, qui est un centre d'essai de la marine nationale. Et depuis pas loin de 45-50 ans, Donc ces deux thèses se sont affrontées et continuent à s'affronter aujourd'hui, ces deux thèses principales.
Et certains ont remarqué même que ce jour-là, il y aurait eu des manœuvres navales communes entre des bateaux français et des bateaux américains.
Alors,
ça, c'est ce que j'ai vu dans le dossier comme ça.
Absolument. L'île du Levant, alors, ces manœuvres auraient eu lieu, n'auraient pas eu lieu à l'île du Levant. Il y a deux, en fait, sur l'hypothèse des manœuvres, il y a deux thèses.
D'accord.
Il y a effectivement eu, selon mes informations, jusqu'au 13 février, pas jusqu'au 15. J'ai pu remonter ces informations jusqu'à un certain point.
Ouais.
Des manœuvres qui s'appelaient Finia 89, au large de Marseille. Qui, à l'époque, la 6e flotte américaine basée à Naples, aujourd'hui, avait des accords de, d'entraînement avec la marine française. Et alors, moi, je parle aussi d'une chose un petit peu différente et parallèle. L'île du Levant, qui est un centre d'essai, encore aujourd'hui, procède très régulièrement à des essais de test-missiles. Nous étions à une époque, en 1989, où les systèmes de télémétrie, de télémesure et de guidage des missiles n'étaient pas aussi au point que...
Aujourd'hui, oui, bien sûr.
Aujourd'hui. Ce qui laisse envisager, ce qui peut laisser imaginer éventuellement une erreur plus technique, évidemment, qu'humaine. D'autant plus que, à l'issue de cette enquête... Nous avons pu, je dis bien nous, collectivement, avons pu établir, en enquêtant, nous avons pu établir que des faits précédant l'année 89 s'étaient déroulés pas loin de Toulon.
Ouais, notamment à Antibes, je crois, la sœur d'un ministre, non
Il
avait retrouvé dans son jardin un missile, non, je ne sais plus, c'est un vieux souvenir comme ça que j'ai.
C'était en avril, exactement, en avril 1970, le bateau test Île-d'Oléron, qui est en fait le trait d'union entre les industriels et la marine nationale, qui met en œuvre un missile qui s'appelle le missile Mazurka.
Ouais.
Je crois que c'est un missile qui faisait 6 mètres pour à peu près 600 kilos, chargé d'une tête inerte, avant de le faire rentrer en service réellement dans la marine nationale, procède à un dernier test sur un avion cible, donc un avion sans pilote, au large de l'île de Levant. Donc, en général, encore aujourd'hui, je le sais parce que j'y ai depuis tourné à l'île du Levant, en général, ces missiles se tirent sur ce qu'on appelle un cône sud, qui va donc vers la Corse et l'Afrique du Nord. Et ce jour-là, pour une raison indéterminée, le missile rate l'avion cible et part dans l'autre sens. Et va s'écraser à Mach 2, au-dessus de la plage de la Fossette, au Lavandou. Plage de la Fossette, sur laquelle j'ai moi-même enquêté il y a quelques années, et là encore, la mémoire était restée encore assez vive, bien des années après, de ce crash.
Donc c'est possible, nous reviendrons sur cette hypothèse, parce qu'il y a d'autres éléments dans le dossier qui peuvent militer pour la présence d'une frappe de missile, évidemment involontaire. Mais d'abord, il faut rappeler quand même que la version officielle, ça a été celle de l'explosion de gaz. Et au-delà de l'explosion de gaz, celle d'un suicide par le gaz d'une habitante de l'immeuble, une militaire retraitée qui vivait au troisième étage de la maison des têtes. Elle aurait ouvert donc les robinets de gaz de son appartement pour se suicider. C'est en tout cas ce qu'expliquait sur l'antenne d'RTL Jean-Baptiste Dumas sur place.
Annette Vazertage vivait au troisième étage de l'immeuble aux têtes. Elle avait 67 ans et derrière elle, une carrière d'adjudant-chef dans l'armée de terre. Quelques jours avant le drame, elle avait avoué son ras-le-bol de la vie à une vieille copine qui lui rendait visite. Elle vivait seule depuis plus de 10 ans et ne le supportait plus. Aujourd'hui, plus de doute. L'explosion a bien eu lieu au troisième étage et c'est bien le gaz qui a provoqué la déflagration. Plusieurs indices matériels, des dizaines de témoignages recueillis et recoupés ont permis aux policiers de tirer cette conclusion après un mois d'enquête. Tout d'abord, cette odeur de gaz remarquée par tous les témoins. Ensuite, un seul corps avec des marques de brûlure a été retiré des décombres. Ce corps, c'était celui d'Annette, la seule locataire du troisième étage. Enfin, l'étude minutieuse des compteurs de gaz, étage par étage, appartement par appartement, a démontré que le compteur d'Annette affichait un chiffre de consommation anormalement élevé, qui ne peut pas s'expliquer par les rigueurs d'un hiver très clément. Le suicide d'Annette a coûté la vie à 13 personnes, dont 3 enfants en bas âge.
43 mètres cubes exactement de surconsommation de gaz, c'est ce que les enquêteurs avaient relevé. Et cela va devenir la version officielle de la justice. Cette version va être remise en cause avec de très nombreux arguments que nous allons passer en revue, cette fois avec un avocat. Nous retrouverons bien sûr dans cette émission le témoignage de Vulfran Derman qui se bat et qui a ouvert un blog sur Internet pour tenter de recueillir des témoignages, car il pense que des témoignages peuvent encore arriver. Et nous en parlerons de ce dossier du côté de la justice, bien sûr, avec maître Isidore Aragonès, avocat au barreau de Marseille, avocat de l'Association des familles des victimes, dans un tout petit instant. L'énigme de la maison des têtes à la une de l'heure du crime. On retrouve dans un instant François Serrier, le journaliste qui avait mené l'enquête sur cette affaire, parce qu'on en parlait évidemment beaucoup 6 ans après, mais on continue à en parler aujourd'hui. Il y a toujours autant de questions sans réponse. Dans un instant, on va retrouver Vulfran Derman, qui lui a vécu ce miracle, qu'il nous a raconté, vécu cette explosion, mais il nous l'a dit, pas d'explosion, un souffle, un flash extrêmement puissant. De quoi se poser la question sur l'existence ou non d'une fuite de gaz ou d'un suicide au gaz, parce que, il faut le remarquer aussi, je l'avais indiqué tout à l'heure, quand les pompiers sont arrivés, il n'y avait pas d'incendie, et souvent, quand il y a une explosion au gaz dans un immeuble, eh ben, il y a le feu. On va prendre tout de suite justement l'analyse et l'éclairage de maître Isidore Aragonès. Bonjour maître.
Monsieur Pradel, bonjour. Bonjour à vos invités et à tous vos auditeurs.
Alors, si vous représentez les familles, c'est parce que l'Association des familles des victimes, c'est parce que cette version officielle ne leur convient pas en tout cas.
Bien entendu, il y a eu un drame épouvantable et chaque famille qui était affectée, profondément affectée par ce drame, voulait absolument savoir ce qui s'était passé, dans quelles circonstances ce drame était intervenu. Et j'entendais tout à l'heure l'interview que vous avez passée auprès de vos invités. Mmh. En fait, très vite, on s'est aperçu, la justice s'est aperçue, puisque moi je vous parle sous l'angle de la justice, qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Et ça a beaucoup gêné la justice, et notamment le juge d'instruction, des rumeurs sur des querelles de voisinage, des querelles de famille, sur les activités d'un des occupants de l'immeuble.
Oui, telle sorte une vengeance, etc.
Oui, oui. Mmh. Et à ce moment-là, le juge a voulu immédiatement mettre un terme à ces rumeurs, et parmi les rumeurs, il y avait, ce qui pour nous est beaucoup plus qu'une rumeur, l'éventualité d'un missile. Et le juge, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a mis au même niveau tous ces types de rumeurs qui, bien souvent, étaient infondées, pour privilégier la thèse de l'explosion du gaz.
Alors, maître, puisque je profite de vous, vous êtes l'homme de loi là pour nous cet après-midi, expliquez-nous. Donc, après un drame comme celui-là, les familles des victimes se font représenter par un avocat, il y a un juge d'instruction qui mène, il y a une instruction ouverte, et c'est tout à fait naturel, et puis un jour, il y a la version qui tombe en disant, voilà, c'est une fuite de gaz, et on donne les arguments, et notamment la surconsommation du compteur de cette dame. Mais ensuite, il y a contestation. Ça a duré combien de temps, ce feuilleton? Parce qu'il y a eu un non-lieu.
Oui, ça aboutit par une décision rendue par la Cour d'appel d'Aix au mois de mars 1995, donc un peu plus de six ans après les faits, aboutissant à un non-lieu au motif que aucun élément probant n'a pu être privilégié de telle sorte que on n'a pas trouvé de responsable.
Et alors, du côté judiciaire, quelles sont vos armes possibles pour relancer les choses?
Dans un premier, à présent, malheureusement, nous n'avons plus d'armes. Il faudrait qu'un élément nouveau intervienne pour que la justice se saisisse elle-même et dise, attendez, il y a un élément qui n'avait pas été pris en considération. La difficulté, c'est que pour faire connaître sa position, le juge d'instruction ne s'était pas appuyé sur un élément quelconque. Il s'était appuyé sur un rapport de 2 experts qui avaient été immédiatement après les faits désignés pour, en quelque sorte, dire selon eux et sur quoi se basaient leurs conclusions. Ouais. Et les conclusions de ces experts, c'était pas simplement une rumeur, c'était une certitude pour eux, l'explosion était due à une fuite de gaz.
Oui, voilà.
C'était invraisemblable, parce qu'il n'y avait eu aucune odeur de gaz.
Alors voilà, pas d'odeur de gaz, pas d'incendie.
Et aucune fuite n'avait été enregistrée.
Et aucune fuite, oui, bien sûr.
Et en plus, il y avait quand même des éléments qui étaient troublants dans cette instruction. Vous voyez qu'il y avait des malaises. Par exemple, des vêtements de plusieurs victimes qui avaient été égarés à l'hôpital. C'est invraisemblable, un événement comme celui-là. Alors, lorsque nous avons eu ce rapport faisant ressortir l'existence eh bien malheureusement d'une explosion due au gaz, alors que toutes les familles savaient que ça ne pouvait pas être le cas, et j'entendais tout à l'heure Vulfran qui évoquait ceci, eh bien on a dit on va, puisque l'expert désigné par le tribunal n'a pas été en mesure d'aller plus loin, il s'est simplement rattaché à la version officielle, bien on s'est dit on va désigner nous-mêmes notre expert. Et nous avons à ce moment-là fait choix d'un expert en lui confiant plusieurs éléments pour lui demander quelles étaient selon lui ses conclusions, et sans pour autant intervenir de quelque manière que ce soit. On lui a donné les mèches de cheveux d'une des victimes, on lui a donné la chevalière et la bague d'une autre victime, des débris de bois dans le laboratoire, et je crois même que une analyse cutanée de la peau de Vulfran Derman.
Oui, on va en parler avec lui.
A eu lieu. Et là, à ce moment-là, Monsieur Loribot, qui était l'expert qui avait été désigné par les familles, par notre association, a été d'une clarté impitoyable pour la justice. Il a dit que les analyses qui avaient été faites au microscope faisaient ressortir l'existence de nombreuses particules sphériques et subsphériques contenant des éléments métalliques, dont du titane. Ouais. Et il ajoute que le titane est un métal couramment utilisé dans la fabrication de certains types d'obus et de missiles.
Bien sûr. Donc, on comprend donc que cette thèse du missile n'est pas née comme ça de l'imagination d'un certain nombre de gens.
C'est pas une rumeur.
Voilà, c'est pas une rumeur.
C'est un élément concret qui s'appuie sur des conclusions émanant d'un expert.
À ce propos, maître, je voudrais qu'on entende François Serrier, parce que vous étiez intéressé évidemment à cet aspect-là des choses. Hein.
À l'occasion de l'appel à témoins que nous avions réalisé sur TF1 à l'époque, il était extrêmement intéressant, à travers l'appel à témoins et à travers l'enquête que nous avions faite précédemment, les gens, certaines personnes, certains témoins avaient entendu un sifflement. Des ouvriers qui sont intervenus sur le chantier, sur les débris après l'explosion, ou dans le voisinage pour réparer des fenêtres et des lignes téléphoniques, etc., ont senti des traces de poudre. Moi, j'ai eu au bout du fil un ancien armurier de la marine qui m'a dit que il habitait tout à côté, juste après l'explosion, ses murs étaient criblés de poudre.
Alors, on va faire une pause, on va retrouver, parce que j'ai encore une question à poser à maître Aragonès dans un petit instant, on va donc le retrouver. On va se tourner aussi vers Vulfran Derman pour parler de ces analyses qui ont été faites par un laboratoire qui était un peu l'ancêtre de laboratoire de police scientifique en France, et puis on va revenir sur le bilan général de tout cela et voir dans quelle mesure on peut encore espérer des éléments nouveaux. Dans un instant, on retrouve Vulfran Derman parce que un certain nombre d'éléments qu'il touche de près lui font penser quand même qu'on a voulu occulter en tout cas une partie de la vérité. Mais encore un mot avec vous, maître Aragonès. Concrètement, clairement, aussi longtemps après les faits, est-ce qu'un simple témoignage peut permettre de relancer une enquête qui deviendrait à ce moment-là une enquête criminelle?
Non, certainement pas, parce que la cour d'appel avait en sa possession de nombreux témoignages qui auraient pu lui permettre de répondre à notre demande. Et notamment, nous avions demandé l'exhumation de deux corps pour conforter les conclusions de notre expert.
Bien sûr.
Et la Cour s'est refusée et entérinée, en ce sens, la décision qui avait été rendue par le juge d'instruction.
Donc la vérité
probant et incontournable pour que on puisse éventuellement envisager quelque chose de nouveau.
Alors un élément probant.
Je suis de plus en plus sceptique voyant les années passées.
Ouais, bien sûr. Écoutez, je vous remercie beaucoup. En tout cas, ça montre aussi que le combat pour la vérité que mènent les familles, on peut le comprendre, même si il débouche pas sur une action judiciaire, c'est bien naturel. Je vous remercie beaucoup. C'était maître Isidore Aragonès, qui est l'avocat au barreau de Marseille et avocat de l'association des familles des victimes. Je reviens vers vous, Vulfran Derman. On l'a dit très rapidement tout à l'heure, donc ce laboratoire scientifique a fait des prélèvements, je crois, sur vos blessures. C'est comme ça qu'on a trouvé du titane, notamment?
Oui, tout à fait. Juste avant, je voudrais revenir sur deux ou trois petits points.
Allez-y.
Pour ce qui est de la consommation de gaz dans l'appartement de Madame Wagerstein, il faut savoir que GDF, à l'époque, avait rapidement démenti une surconsommation et que le compteur avait tout simplement été détraqué par le souffle de l'explosion.
D'accord. Bah, ça, c'était important à rappeler, oui.
Voilà. Deuxièmement, lorsque je vous ai parlé tout à l'heure que je n'ai pas entendu de bruit d'explosion au moment de l'explosion, quand même, de l'immeuble, c'était pour vous signaler qu'en fait, quand on est au centre d'une explosion, on n'a pas le bruit.
Ah,
et donc j'étais au premier étage. Madame Wagerstein habitait au troisième étage.
D'accord.
Ensuite,
Ça veut dire que l'incident, quel qu'il soit, s'est passé au niveau du premier étage.
Au premier étage. Et lorsqu'on lit les rapports d'autopsie des victimes du premier étage, donc de mes compagnons, on voit tout à fait que ça s'est bien passé au premier étage. Ensuite, Madame Bajersin, il faut savoir qu'elle était donc au troisième étage, avait rendez-vous ce jour-là avec une société qui devait refaire son appartement.
François Serrier m'en avait parlé à l'instant hors micro. Voilà. Effectivement, est-ce qu'on se suicide en convoquant des gens pour refaire l'appartement?
On a eu ce témoignage suite à l'émission donc de témoin numéro 1 que nous avons fait ensemble en avril 95. Voilà. Et ensuite, dernier point important, les vêtements donc, qui ont disparu, notamment ceux du premier étage.
Alors, vos propres vêtements, par exemple, vous ne les avez pas retrouvés?
Non. Et voilà, c'est le grand mystère. C'est-à-dire que l'explication que nous avons eue lorsque M. et Mme Baye ont enquêté à l'époque, M. et Mme Baye sont les parents d'Alexandra qui travaille avec moi au sein du laboratoire, ils ont fini par avoir une explication à la morgue d'un pauvre employé qui est venu se confondre en excuses en disant qu'il s'était trompé et qu'il avait brûlé par erreur les vêtements des victimes du premier étage. Il se trouve que moi, puisque je vous parle, je n'étais pas à la morgue. Mes vêtements m'ont bel et bien accompagné à l'hôpital puisque les pompiers me l'ont confirmé, que on le voit cela aussi sur les vidéos de l'époque des infos, on voit mon brancard passer avec mes vêtements posés dans un sac à mes pieds. Et là, mes vêtements ont aussi disparu. Troisième point, il y avait les vêtements dans le vestiaire qui est resté, on va dire, miraculeusement en place après l'explosion où des personnes ont vu les blousons encore accrochés donc au mur.
Et tout ça a disparu.
Ont disparu aussi. Voilà.
Alors, c'est un constat, effectivement, oui.
Excusez-moi.
Non, je vous en prie.
Voilà. Pour revenir à ma blessure, il faut savoir que j'ai eu une blessure donc, qui a été remarquée par l'expert de M. Le Ribot à l'époque, qui a confirmé que c'était une blessure typique que l'on retrouvait uniquement sur les militaires, les soldats, qui avait le malheur d'être victime d'une explosion en marchant sur une mine ou d'un obus ou quoi que ce soit qui puisse tomber à côté d'eux.
Ça fait beaucoup de choses.
Et ensuite, lorsque l'on a prélevé un peu de peau au centre de cette blessure et que M. Le Ribot l'a analysé, on a retrouvé en effet, entre autres, du titane, plus d'autres éléments, tous ces éléments-là, entre autres le plomb, la poudre, etc., font partie d'éléments d'un missile.
Alors, je vous interromps, vu le frondairement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, c'est passionnant ce que vous dites, et on comprend évidemment que vous privilégiez la thèse du missile. Je voudrais juste vous demander, vous avez toujours un blog sur Internet, vous incitez ceux, par exemple, qui vous auraient écouté aujourd'hui, à prendre contact avec vous si quelqu'un peut apporter un autre élément, c'est ça?
Tout à fait.
Vous ne voulez pas baisser les bras, quoi.
Pas du tout les bras. Il y a un site, c'est lamaisondestetes.fr, tout écrit en minuscules.
D'accord.
Où les gens peuvent venir voir ce site avec toutes les émissions qui ont été faites, dont la vôtre, des articles de journaux, etc.
Et prendre connaissance du dossier, quoi.
Exactement.
Et éventuellement apporter leur témoignage. D'ailleurs, je vous le dis, on va mettre un lien, évidemment, sur RTL.fr. Je vous remercie, merci beaucoup. Je voudrais que le mot de la fin le donner à François Serrier, parce que il a fait cette enquête à l'époque, une enquête extrêmement fouillée pour l'émission Témoignement, d'ailleurs qui avait donné des résultats vraiment importants, hein, des témoignages qui ont été cités tout à l'heure. Un dernier mot, vous aviez aussi recueilli des témoignages sur le fait que des événements s'étaient passés comparables, on va dire, avant le drame de la Maison des Têtes.
Absolument. À l'époque, la Marine nationale prétendait que ce type d'événement était impossible. Et nous avons établi, à travers soit l'enquête, soit l'appel à témoins qui s'est déroulé sur TF1 à l'époque, que des événements comparables, même qui auraient pu être de portée encore plus grave, s'étaient produits, notamment juste sur un point. Nous avons eu le témoignage d'un ancien radariste de la frégate Duquesne, qui participait à des manœuvres OTAN au large de l'île du Levant, qui nous a raconté que dans des circonstances comparables, un missile Mazurka avait été perdu alors qu'il devait toucher un avion cible, et silence radio pendant 24 heures. Et il nous a raconté que c'est la gendarmerie maritime de Marseille qui avait ramené le missile, qui avait survolé Marseille, qui s'était écrasé dans les Alpilles.
Voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres. On ne peut pas aller plus loin, mais vraiment c'est un exemple très frappant. Je vous remercie beaucoup, François Serrier. Merci aussi à Vulfran Dermant, donc survivant de ce drame, et Maître Isidore Aragonès, qui a fait le point juridique de cette affaire. Nous sommes obligés de mettre un point final. Je vous souhaite évidemment un très très bon week-end. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.